Vous êtes sur RTL.
7h44, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le président de l'Association des maires de France, par ailleurs maire de Troyes, François Baroin.
Oui, qui se fait discret sur la scène nationale. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Bonjour François Baroin. Justement, vous êtes président de l'Association des maires de France. Vous avez été sensible au choix de Gérard Collomb de se consacrer à Lyon plutôt qu'à son ministère de l'Intérieur dans quelques mois. C'est un bel hommage à la fonction.
Oui, on peut le dire comme ça. Oui, c'est vrai. Pour qui a été maire ou qui est maire, c'est de très très loin par rapport aux responsabilités nationales. Peut-être le mandat le plus accompli. C'est un lien très particulier avec une population, avec un territoire.
C'est ce que nous disait François Bayrou d'ailleurs hier matin aussi.
Moi, j'ai eu la chance, comme Bayrou, comme Collomb, d'exercer des responsabilités nationales. Ça écrase tout, en fait. C'est un lien singulier, c'est une histoire. Ça correspond probablement aussi à l'idée qu'on se fait lorsque l'on rentre en politique, de se battre pour des convictions et de se battre aussi pour son engagement. J'ajoute que c'est une chance d'être de quelque part. Et quand ce quelque part vous plaît et que vous êtes utile pour ce quelque part, ça rend complète une vie politique. Donc je comprends la démarche de Gérard Collomb. Après, l'annonce d'un départ différé, ça c'est un peu plus surprenant parce que ça l'affaiblit dans sa fonction actuelle.
C'est-à-dire annoncer qu'on partira dans 8 mois ou plus tard.
Oui, voilà, ça c'est un peu baroque, mais en revanche,
c'est baroque et c'est étonnable.
Ça c'est l'histoire qui le dira, je pense qu'en tout cas c'est un affaiblissement. Mais je pense la sincérité de sa démarche, de son attachement lyonnais, c'est sûr.
Puisque vous parlez du rôle de maire, je vous pose directement la question, vous serez candidat à vous, au municipal de 2020, à la mairie de Troyes, vous êtes élu depuis 95.
Je suis élu depuis 95, c'est une dimension préhistorique du processus électoral, mais cet attachement-là est un attachement profond, mais vous me permettrez, vous le comprendrez bien, de réserver cette réponse directement au Troyen le moment venu.
Ça n'est pas non, ce matin-là, au moment où je vous pose la question.
Non, ça je me bats pour le développement de ce territoire magnifique, qui n'est pas une métropole, qui est un territoire interstitiel, qui a une identité très forte.
Interstitiel.
Oui, interstitiel.
Vous jargonnez, François Baroin.
C'est-à-dire, entre Paris et les 6 métropoles, aujourd'hui, c'est la grande question sur les territoires. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai répondu à votre invitation. C'est que les préoccupations sur l'avenir du pays, dans son organisation géographique, démographique, est aujourd'hui une question extraordinairement prégnante, présente, du quotidien.
On va y venir.
C'est pas du jargon, c'est la réalité du quotidien des Français.
Maire, ça n'est pas une sinécure. Et après l'été, on a entendu beaucoup de rumeurs, de démissions ou de maires qui ne se représenteraient pas précisément en 2020. D'abord, est-ce qu'à l'AMF, l'Association des maires de France, vous avez des chiffres qui prouvent qu'effectivement, la fonction aujourd'hui épuise et que beaucoup hésitent à revenir.
C'est sûr, le mouvement, il est profond pour les maires. Alors, des chiffres précis, on ne les a pas avec certitude, ce qui est d'ailleurs assez bizarre, parce que même le ministère de l'Intérieur a du mal à avoir une vision exhaustive. Mais on peut dire qu'on est de l'ordre entre 1200 et 1500 maires, autour de 1500 maires. Mais le plus important, c'est pas tellement le nombre de démissions des maires, c'est le nombre de démissions des maires adjoints, des conseillers. Et là, c'est un mouvement en profondeur, c'est-à-dire des gens sur les 500 000 élus, bénévoles, disponibles, qui matin, midi et soir sont au quotidien, le week-end, écoutent une personne âgée en difficulté, se met à la disposition d'une famille qui a un problème particulier. C'est ça, et c'est cette France-là, c'est cette France des territoires, cette France du bénévolat, cette France de l'association, cette France de la disponibilité. En fait, c'est la République. Nous, on est, avant d'être des agents de telle ou telle mission, on est des serviteurs de la République. Et la République est en train de s'abîmer.
C'est toujours la guerre entre les 500 000 élus locaux que vous citez, là, et le président.
Alors, j'aurais juste terminé, c'est une République qui est en train de s'abîmer dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle est en train d'échouer au quotidien et elle est en train de se fatiguer en permanence. On ne peut pas rester silencieux. Et l'État ne peut pas rester silencieux et nous, on ne peut pas rester silencieux. C'est la raison pour laquelle la semaine prochaine, avec les représentants de toutes les régions de France, de tous les départements de France et de toutes les mairies de France, quels que soient les engagements politiques, les sensibilités, on va lancer un grand appel à une relance des libertés locales et une relance de la décentralisation. Le mouvement de recentralisation de ce pouvoir, comme celui qui avait été engagé précédemment, est un mouvement qui épuise des gens de bonne volonté, et c'est quand même une certaine idée de la France qui est en train de s'éloigner de nous, donc il faut se redresser, il faut regarder plus loin l'horizon, et il faut se mettre en situation de créer les conditions d'un regain d'engagement. Sinon, on sera en grande difficulté.
L'appel de Marseille des trois grandes associations d'élus locaux, donc l'AMF, les départements avec M. Bussereau, et également
les régions avec Hervé Morin.
Vous allez à Marseille, et vous dites quoi au président, précisément ?
On a déjà essayé de lui dire pas mal de choses, mais les relations ne sont pas bonnes, elles sont tendues, et aujourd'hui on est à mi-chemin entre un dialogue de sourds et puis un sentiment très désagréable. Quelques exemples. Il y avait objectivement, lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, plutôt un intérêt, il était assez peu connu par les élus locaux, donc un intérêt, plutôt une curiosité
d'ailleurs,
bienveillante.
Vous aviez été, je veux dire, vous l'aviez accueilli avec des mots très positifs, vous-même.
Je l'ai affronté pendant la campagne présidentielle et législative, je respecte profondément sa fonction et c'est difficile de gouverner. Je ne connaissais pas son état d'esprit vis-à-vis des territoires et ça m'intéressait de voir au fond de quelle manière on pouvait imaginer écrire une nouvelle histoire de la décentralisation, des libertés locales et au fond un nouveau progrès dans un mouvement complet. On est allé de déception en déception, ça a altéré la confiance en profondeur, il faut dire les choses, et aujourd'hui on n'est pas loin de la rupture. Deux, trois exemples très simples. Lorsqu'il y a eu l'affaire des emplois aidés l'été dernier, on nous a expliqué que nous on faisait des emplois aidés parce qu'on était des clientélistes et qu'on embauchait des gens pour avoir des voix. On l'a vécu comme une insulte. Deuxième exemple, Macron, au moment de la campagne présidentielle, dit on va demander aux collectivités locales, aux communes, de faire un effort de 10 milliards, c'est-à-dire les gens, moins de services publics, moins d'investissement local. Trois semaines ou un mois après, il explique que ça va être 13 milliards. Quand Hollande a fait la saignée sur les collectivités locales, les 11 milliards, ça fait 30% d'investissement public local en moins.
Vous nous rappelez le poids de la dépense publique dans la production nationale ? 57% ?
Alors, 57%, la première source de dépense, c'est la sécurité sociale avec 640 milliards. La deuxième source de dépense, puisque vous allez sur ce terrain, c'est l'État avec 300 milliards. La plus petite source de dépense, mais la plus saine, ce sont les collectivités locales avec 230 milliards.
François Baroin,
Et je termine. On n'a pas le droit de faire du déficit. On a une règle d'or. On ne peut pas emprunter, nous, de l'argent pour du fonctionnement. L'État, oui.
Alors, je vous pose la question. Dans son discours de présentation des mesures de lutte contre la pauvreté, il y a une semaine, Emmanuel Macron a souligné, par exemple, le rôle prépondérant du département dans la politique sociale. Ma question, c'est, il n'y a pas un petit bouger, quand même, du président, justement, sur le rôle des collectivités locales ? Rapport à l'espèce de confrontation qu'il a posée en juillet 2017, il y a une petite évolution, non ?
Oui, c'est quand même immédiatement tempéré par les mesures budgétaires de la loi de finances, puisqu'on va continuer sur l'APL, qui est une folie.
La baisse
de l'APL, c'est une folie. Et d'ailleurs,
il n'y a pas de réduction des prestations sociales. Il y a une moindre revalorisation.
On a supprimé l'APL accession.
Par rapport à l'inflation.
Qui est un élément bloquant. L'inflation, elle va être entre 1,7 et elle est à 2,3 pour ce trimestre-là. Et l'indexation, elle va être à 0,3. C'est une baisse directe du pouvoir d'achat. Donc si on veut lutter contre la pauvreté, on relance par exemple des emplois aidés, qui sont en fait la seule piste d'espérance pour des gens qui sont en difficulté. On ne touche pas à l'APL.
Vous voulez qu'on augmente les emplois aidés ?
En tout cas,
soutenu François Fillon ?
Dans un cadre...
Pendant la campagne ?
Non, mais moi j'ai aucun état d'âme là-dessus. Moi, je soutiens des processus qui permettent à des gens qui sont en très grande difficulté, en très grande précarité, d'avoir une espérance. Et les emplois aidés, ce n'est pas une gestion statistique du chômage, ce sont des perspectives possibles pour des gens qui n'ont pas d'autre espoir de se redresser qu'on leur tende la main. C'est un exemple parmi d'autres. L'APL, c'est en train de mettre en l'air l'ensemble du mouvement des bailleurs sociaux, de la construction, et donc vous aurez des difficultés de production de logement, aussi bien sur la partie des offices publics de l'habitat que sur la partie des
Avec
promoteurs privés.
Avec des conséquences
privés.
Sur l'emploi direct. Vous les prévoyez, oui.
Mais directement. Lorsque vous avez 10% en moins d'investissement local, c'est 0,2 points de croissance. C'est 60 000, 70 000 emplois, par exemple, dans le bâtiment travaux publics. Toutes les productions de logements sur les 3-4 années qui viennent seront au ralenti. Même le gouvernement a reconnu que c'était une erreur et on poursuit dans cette erreur dans la prochaine loi de finances.
Par exemple, est-ce que vous diriez, compte tenu de votre démonstration, que le chômage risque de ne pas baisser en France parce que le bâtiment va être en difficulté et que l'emploi dans ce domaine va être en difficulté ?
En tout cas, l'État n'investit quasiment plus, de l'ordre de 9 milliards. Les seuls qui investissent, c'est nous. Et les demandes d'efforts qui sont produites sur l'affaire des dotations, c'est quelque chose qui aura un impact de l'ordre de 30% dans les 3-4 années qui viennent sur l'investissement. Donc ça aura de l'impact sur le chômage et ça aura de l'impact sur la croissance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu que des mauvaises mesures. Il y a eu des bonnes mesures au début du quinquennat.
La politique économique que la droite aurait voulu faire, vous l'aviez dit.
Oui, absolument. Je pense que toutes les mesures fiscales sur la politique de l'offre, sur l'impôt sur les sociétés, sur la baisse de la fiscalité sur les dividendes, sur la réforme du travail, ça allait dans la bonne direction, c'était bonnes idées, des bonnes mesures. Mais c'est immédiatement contrarié par des mesures qui impactent trop directement le pouvoir d'achat. Juste, moi j'ai été en responsabilité, mais j'ai tiré des leçons de ces responsabilités. Et si on fait qu'une politique de l'offre sans soutenir le pouvoir d'achat dans un modèle économique où plus de la moitié de la richesse nationale c'est de la consommation, vous êtes sûr que vous aurez un ralentissement de la croissance. La CSG, les affaires de la fiscalité sur les taxes, sur le diesel, etc. Tout cela sont des mesures qui auront un impact sur le pouvoir d'achat, donc sur la consommation, donc sur la croissance.
François Baroin, le parti vous manque ?
Ah, pas une seconde.
Pas une seconde.
Vous un peu, de temps en temps, pas trop, mais le parti, pas du tout.
Votre parti. Le parti qui a été fondé par Jacques Chirac et ensuite qui a connu toutes les transformations.
Je suis l'un des fondateurs de ce parti,
voilà,
aussi.
Exactement. Oui, il ne me manque pas du tout. La politique partisane, c'est fini, définitivement.
Oui, en tout cas, c'est 25. Non, ça, j'ai tourné le dos à 25 ans d'engagement partisan matin, midi et soir. J'aurais organisé sa vie professionnelle. J'ai démissionné du Sénat, j'ai conservé mon engagement local.
Vous êtes avocat d'affaires également.
Je suis avocat d'affaires pénales, tout. J'ai réorganisé ma vie professionnelle, j'ai voulu voir aussi d'autres univers, d'autres gens, d'autres intelligences se réinventer d'une certaine manière, et je peux vous dire que c'est très très sain.
Vous auriez été député européen quand même, ce sont des affaires graves. Est-ce que vous auriez voté pour la procédure de sanction du Premier ministre hongrois Viktor Orban il y a une semaine à Strasbourg?
Pour bien comprendre, le PPE est un parti historique.
Le PPE, c'est le parti conservateur auquel appartient Orban. Et Laurent Wauquiez dit, il a toute sa place ce matin, il le dit, il a toute sa place Orban au sein du PPE.
Oui, je pense que c'est important pour les auditeurs de comprendre. Le PPE, c'est d'abord le parti démocrate chrétien, qui est celui de la sous CDU, qui a été fondée par les Allemands. Et donc Mme Merkel, qui a offert 1 million de places pour des migrants, n'a pas tout à fait la même politique que M. Orban. Ils sont dans le même parti. Donc ça, c'est une grande complexité européenne.
Mais vous auriez voté pour les sanctions ou pas ?
Alors, je ne partage pas du tout l'avis de M. Orban. Et pour tout vous dire, répondre à cette question m'ennuie fortement.
Pourquoi ?
Parce que justement, je ne veux plus m'occuper de la tambouille militante. Mais je vous donne le contexte historique.
L'Europe, ce n'est pas une tambouille militante. Et l'Europe a toujours fracturé la droite, ça c'est historique.
Mais les affaires du PPE, ça c'est vrai. Le PPE est le grand débat européen, il a été fait avant et sous Jacques Chirac, c'est lui qui a accepté que le RPR à l'époque, Parti Gaulliste, rentre au PPE, ce qui a été presque un élément de fracture. Mais son autorité a permis d'imaginer une politique libérale. Libérale pour mettre en place la zone euro, libérale pour avoir une Europe, mais pas assez libérale ou pas assez protectrice pour régler les problèmes migratoires qui n'existaient pas à l'époque.
Permettez une dernière question, vous voyez Jacques Chirac ?
Ça, c'est je le vois, c'est le sens de l'intimité. Il va comme un homme dans l'état que l'on connaît, avec son âge, qui avance au compteur de la vie, mais qui conserve son si joli regard.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, François Baroin.
François Baroin qui lance un appel aux libertés locales et à la décentralisation sur RTL avant de le lancer à Marseille. Vous l'avez compris, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.